Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à la demi-finale de la Coupe du Monde 1982, opposant la France à l'Allemagne à Séville. La demi-finale de Séville 1982. Après une entame de compétition poussive débutant par une défaite sans appel contre l'Angleterre à Bilbao 3-1, une victoire contre le Koweït et un match nul contre la Tchécoslovaquie, la France est montée en puissance tout au long du tournoi. Qualifiée de justesse pour le second tour, les Bleus se sortent ensuite facilement de leur poule à 3, victoire contre l'Autriche et l'Irlande du Nord, accédant ainsi à leur première demi-finale mondiale depuis 1958. La performance de l'Allemagne de l'Ouest est également allée crescendo dans ce tournoi. Battue dès son premier match par l'Algérie à la surprise générale de 2-1, la Mannschaft s'est relancée en écrasant le Chili, puis s'est qualifiée sans gloire pour le deuxième tour à l'issue d'une victoire 1-0 contre le voisin autrichien au cours de ce qu'on a appelé le match de la honte en raison d'un arrangement pour éliminer l'Algérie. Au deuxième tour, l'équipe du sélectionneur Joop Derwal s'est sortie d'un groupe très difficile, obtenant le nul contre l'Angleterre avant de battre et donc d'éliminer l'Espagne à domicile. Contre les Bleus, l'Allemagne part largement favorite. Cette demi-finale du Mondial 1982 qui se déroule à Séville au stade Sánchez Pizjuán a constitué un sommet du football par son scénario à rebondissement, sa dramaturgie et son épilogue poignant. Apparemment tétanisé par l'enjeu, les Bleus sont rapidement menés par les Allemands grâce à une frappe de Paul Lidbarski à la 17e minute. L'équipe de France est ressaisie et Dominique Rocheteau, accroché dans la surface, a obtenu à la 23e minute un pénalty sifflé par l'arbitre néerlandais Charles Corver, puis transformé par Michel Platini. La partie s'est équilibrée et les Bleus ont pris l'ascendant au début de la deuxième mi-temps. À la 50e minute, Bernard Gengini, blessé, a dû céder sa place à Patrick Battiston. 8 minutes plus tard, le joueur de Saint-Étienne est lancé en profondeur par Platini. Pressentant le danger, le gardien allemand Schumacher s'est alors élancé à la rencontre du milieu français. Ignorant complètement le ballon, il est venu le heurter violemment et volontairement sous les yeux de l'arbitre. Battiston s'est alors effondré, totalement sonné par l'agression du gardien allemand. Monsieur Corver, pourtant bien placé, n'a alors rien sifflé et n'a pas expulsé Schumacher pour son agression délibérée. Battiston inconscient est sorti sur civière avant d'être remplacé par Christian Lopez. Le score n'a pas plus évolué malgré un tir d'Amoros sur la barre transversale à la dernière minute. Les Français se sont engagés en prolongation avec une ardeur exceptionnelle. Dès la 92e minute, sur un corner, Marius Trésor est monté dans la surface de réparation et au prix d'une reprise de volée incroyable a foudroyé Schumacher. 2-1 pour la France. 6 minutes plus tard, Alain Giresse, d'une frappe extérieure du pied droit, a envoyé à son tour le ballon au fond des filets. La France a fait le break, 3-1. La partie s'est ensuite équilibrée et les Allemands ont repris du poil de la bête. Suite à une nouvelle erreur de M. Corver qui n'a pas sifflé une double faute sur Giresse et Platini, l'attaquant allemand, Karl Rummenigge, a devancé la sortie d'Ettori pour réduire le score 2-3. À la 102e minute. En seconde mi-temps des prolongations, les Français, moins puissants, sont acculés sur leur but par les Allemands. À la 108e minute, sur un ballon mal dégagé, Klaus Fischer a alors réussi un spectaculaire ciseau retourné qui a surpris Ettori. L'Allemagne a égalisé 3-3, score final. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, une demi-finale a dû se jouer au tir au but. À l'issue des 5 premiers tirs, les deux équipes ne sont pas départagées, 4-4. Didier Six et Uwe Stelicke ont échoué. Bossis, le grand Max, auteur d'un match remarquable, s'est à son tour présenté devant le point de pénalty. le défenseur du FC Nantes, peu habitué à l'exercice du tir, a tiré trop mollement et Schumacher a détourné le ballon sans difficulté. Le gardien allemand s'est relevé, a brandi le poing comme un défi à ses adversaires, mais également au monde entier. Le géant avant-centre Horst Rubesch a alors donné l'estocade en prenant à contre-pied Ettori. L'Allemagne est qualifiée pour la finale, au bout d'une nuit inoubliable. En France, tout un pays est en larmes. En finale, l'Allemagne s'inclinera devant l'Italie 3-1. Les Français s'inclineront 3-2 contre la Pologne pour la troisième place. Si on devait emporter pour l'éternité trois images de Séville 1982, ce serait Patrick Battiston allongé comme un pantin désarticulé par Schumacher sur la pelouse du stade et Michel Platini lui tenant la main, Alain Giray s'écartant les bras et hurlant de bonheur, la plus belle image de joie de l'histoire de l'équipe de France, une joie d'enfant et de cours de récréation à l'âge adulte sur la plus grande scène du monde. Enfin, la désolation, les bleus éparpillés et nus, pleins de larmes, présentant l'inconsolable. Vincent Duluc, dans son dictionnaire amoureux des Coupes du Monde, a écrit « Séville est la mère de toutes les nuits et de toutes les défaites. Il n'y a pas eu d'aube plus douloureuse ni de crépuscule plus blessé. Nous sommes entrés dans les ténèbres après avoir cru au bonheur éternel sous un ciel d'apothéose, arraché à la gloire par un destin de tragédie antique et le cœur transpercé. » De son côté, Pierre-Louis Basse, auteur de « Séville 1982 », a écrit « Séville est à part. Moi, je le range définitivement dans le musée imaginaire du football. Dans 50 ans, les enfants s'en donneront encore à cœur joie. Ils se bousculeront devant les images afin d'observer ce qu'une défaite peut avoir de grandiose lorsque le champ de bataille est à la hauteur. D'une certaine façon, Séville n'est même plus un rendez-vous manqué. C'est un combat figé dans l'histoire du sport. » Séville 1982, le romantisme français de la défaite. Arrêt sur image sur les principaux protagonistes de la 58e minute. En 1987, Schumacher publie un livre traduit en français par coup d'envoi, un livre dans lequel il dénonce certains scandales au sein de la sélection allemande. Parmi ces scandales, il y a les soirées arrosées lors des stages de préparation, le recours aux prostituées et le dopage aux amphétamines. Ce livre crée un scandale à l'Allemagne et Schumacher est banni à vie de la sélection nationale et renvoyé de son club de Cologne. Il a reconnu dans cet ouvrage avoir utilisé un produit dopant, l'éphédrine. Schumacher a rebondi ensuite à Schalke 04, puis en Turquie dans le club de Fenerbahçe, pour finir au Bayern de Munich et au Borussia Dortmund. Le 15 juillet 1982 à Metz, devant les caméras de télévision et lors d'une rencontre entre les deux hommes, Patrick Battiston déclare avoir pardonné au portier allemand, Schumacher indiquant qu'il n'avait joué le ballon et qu'il ne voulait pas faire de mal à Battiston. Patrick Battiston, formé au Football Club de Metz, après 3 ans chez les Verts, dont un titre de champion de France en 1981, a rejoint les Girondins de Bordeaux, où il remporte de nouveau le titre de champion de France en 1984, 1985 et 1987, ainsi que la Coupe de France en 1986. Après un passage à l'AS Monaco et un nouveau titre de champion en 1988, il termine sa carrière aux Girondins de Bordeaux en 1991 en s'occupant de l'équipe réserve. L'arbitre, Charles Corver, est né le 16 janvier 1936 à Leyde, aux Pays-Bas, et décède le 10 novembre 2020. L'arbitre, pas plus que son assistant, n'interviennent pour sanctionner cette agression. Au lieu de donner un carton rouge à Schumacher et un pénalty pour la France, il siffle la remise en jeu pour l'Allemagne. Cette décision est régulièrement citée comme l'une des pires décisions arbitrales jamais prises. Par ailleurs, son sourire complice avec le gardien allemand à la suite de cette action sème aujourd'hui encore le doute sur sa prétendue neutralité, alors que l'équipe de France avait éliminé les Pays-Bas à l'occasion d'un match de barrage pour cette Coupe du Monde. Il a été ensuite observateur pour la FIFA, l'UEFA, pendant 22 ans et membre du comité de discipline pendant 16 ans. Il est devenu directeur des ventes nationales chez Heineken. Michel Hidalgo, l'entraîneur de l'équipe de France, est né dans le Calvados en 1933, fils d'un ouvrier métallo-espagnol, a été buteur dans la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions Real Reims de 1956 en juin 1956 au Parc des Princes, puis milieu de terrain à l'AS Monaco qui avait dominé le football français dans la première partie des années 1950. Il deviendra ensuite adjoint des deux entraîneurs, Georges Boulogne et Stéphane Kovac. Il a sans doute inventé le 4-4-2 à la française et faisait jouer ensemble trois meneurs de jeu, trois numéros 10, Platini, Gires et Gengini. Il aura entraîné l'équipe de France de 1976 à 1984, année de la victoire de la France à l'Euro. Il décède le 26 mars 2020, à l'âge de 87 ans. Pourtant, à la 50e minute, normalement, Patrick Battiston n'aurait dû jamais remplacer Gengini, mais Michel Hidalgo avait laissé tous ses milieux de terrain dans la tribune, à savoir René Girard et Jean-François Larios. Et quand Battiston sortira à la 58e minute, il sera remplacé par le Stéphanois Christian Lopez, qui n'avait jamais occupé un autre poste que libéraux. L'équipe de France de Séville 1982 était composée de la manière suivante. Gardien, numéro 22, Jean-Luc Ettori. Défenseur, numéro 2, Manuel Amoros. Numéro 4, Maxime Bossis. Numéro 5, Gérard Janvion. Numéro 8, Marius Trésor. Milieu de terrain, numéro 9, Bernard Gengini, remplacé par Battiston à la 50e minute et qui sera à son tour remplacé par Lopez à la 58e minute. Numéro 10, Michel Platini. Numéro 12, Alain Gires. Numéro 14, Jean Tigana. Attaquant, numéro 18, Dominique Rocheux. Numéro 19, Didier Six.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.